L'économie avec ce chiffre inquiétant.
L'économie.
La croissance qui est plutôt molle.
L'économie.
On va changer complètement de sujet, Nathalie. Avec, rappelez-vous, en 2004, on apprenait que les poupées Ken et Barbie allaient divorcer après 43 ans de vie commune sur décision
de Mattel.
Potu Info, un autre regard sur l'actualité.
Ici Radio Potu.
Potu Info, un autre regard sur l'actualité.
Salut Laurent.
Salut Olivier.
Potu Info, une heure sur l'actualité, une heure d'un autre regard sur l'actualité. Alors pourquoi un regard différent des autres? Parce qu'aujourd'hui, toutes les radios, tous les journaux et toutes les télévisions ont des propriétaires ainsi que des annonceurs. Les annonceurs, c'est ceux qui payent pour avoir un petit peu de publicité. Et ces propriétaires, ces annonceurs ont des intérêts à ce qu'on aille dans le sens du poil de la croissance, du libéralisme économique. Et ici, c'est pas le cas. À Radio Canu, il n'y a pas de pub. À Radio Potu, il n'y a pas de pub. Et pas de propriétaire. On a juste un colonel, mais on reste quand même un petit peu libre. Bref, une heure d'information libre avec une petite prolongation d'une demi-heure après un petit Timix Gration. Et pour commencer, Laurent, qu'est-ce qui m'excite ?
Oh. Donc oui, on va commencer par la partie internationale de ce journal qui sera assez courte, en tout cas plus courte que la partie d'hier. On parle du Mexique effectivement, puisque la mauvaise nouvelle de la nuit, puisqu'elle est arrivée dans le courant de la nuit, elle est tombée sur nos téléscripteurs, c'était la bad news, on dit ça comme ça dans le milieu du journalisme. C'est Felipe Calderón, le candidat de la droite catholique réactionnaire, qui a gagné l'élection présidentielle mexicaine. Son opposant qui avait une petite chance, même une grosse chance, Obrador, conteste d'ores et déjà les résultats et il a dit qu'il ira en justice. Il faut savoir quand même que sur les 100 millions d'habitants, il y a seulement un écart de 240 000 voix, ce qui fait quand même très très faible. Et comme on le disait hier, le matin, c'était le candidat de la gauche qui était en tête. Et puis dans le milieu de l'après-midi, ça avait commencé à virer. Enfin, monsieur Felipe Calderón avait quelques pourcentage d'avance et finalement au final avec 100% des bulletins de vote pris en compte, et ce réactionnaire de droite a gagné. Alors c'est un petit peu surprenant parce qu'il y a quand même une vague rose ou de gauche en Amérique latine. On attendait que le Mexique bascule à gauche, puisque le Mexique n'a pas dû basculer à gauche depuis environ, je sais pas s'il avait un jour basculé à gauche, je crois que ça fait au moins 50 ans qu'il n'a pas basculé à gauche, et donc c'était peut-être l'occasion, et l'occasion est ratée pour les Mexicains. Alors il faut savoir quand même que Felipe Calderón va faire à peu près la même politique que son prédécesseur, qui était Vicente Fox, donc une politique de droite libérale, sans envergure non plus, c'est du libéralisme mou quand même, enfin, c'est quelqu'un qui n'était pas très charismatique, alors Calderón l'était plus, que c'est quelqu'un qui n'était pas connu il y a 6 mois, hein. Il est arrivé comme ça un peu derrière un coin d'une rue, il est sorti du bois ou de la forêt ou de la maison, et puis voilà, il s'est mis en avant, et c'est lui qui a finalement représenté la droite, et en quelques mois il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le prochain président de la République mexicaine. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il n'avait pas vraiment de projet. Il n'a pas non plus fait une campagne sur ce qu'a pu faire son prédécesseur Vicente Fox. Pourtant, il est du même parti, enfin du même bord. Mais il ne s'en est pas vraiment servi. Il a essayé de jouer sur la grandeur du Mexique, sur la démocratie, enfin des choses un peu théoriques et pas très appliquées, pas très populaires. Et bon, il a gagné quand même, et ça veut dire que le Mexique reste un pays à droite, mais on jugera dans les mois qui viennent ce qui va se passer au Mexique. Suite de l'actualité internationale, on ne va pas faire beaucoup de choses sur l'international parce que finalement, quand on regarde un petit peu comment se passe l'info l'été, il faut savoir que les dépêches d'agence se réduisent comme peau de chagrin, si ce n'est qu'on parle beaucoup de foot, de cyclisme, de tennis ou de choses comme ça. Et finalement, les infos du bout du monde ont du mal à nous arriver, notamment au POTU, hein, puisque on est un peu à l'autre bout du monde du reste de la planète. Ça, c'est un peu un truc isolé, c'est un peu la Lune, le POTU, il faut quand même voir ça comme ça. Et donc, on a quand même quelques news d'Israël, parce qu'on a un envoyé spécial de Radio POTU en Palestine. Et donc, il nous a envoyé quelques infos de la nuit, puisqu'il s'est passé encore des choses par rapport à hier. Notamment, les frappes israéliennes ont encore pris de l'ampleur cette nuit. Et il y a une grosse offensive terrestre aussi. Tout ça, c'est sur la bande de Gaza. Et sur la nuit, on note 18 civils palestiniens tués par les bombardements et par les frappes israéliennes. Alors ça, c'est à Gaza. En Cisjordanie, donc c'est de l'autre côté du pays qu'on appelle, nous, la Palestine, des combats entre des groupes résistants et l'armée israélienne. Donc là, c'est échange de roquettes anti-chars contre blindés et hélicoptères, en gros, hein, ça se situe comme ça. Et on notera 10 morts du côté palestinien. Donc dans la Coupe du Monde Israël-Palestine, c'est toujours Israël qui gagne. On en est là. Et puis quelques réactions quand même, puisque depuis hier, il y a d'autres réactions. Alors à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, les pays arabes ont fait une demande. La demande, c'était que l'ONU exige le retrait des forces israéliennes de Gaza. Cette demande n'est pas passée au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU à cause de l'opposition des États-Unis. Alors ça, c'est pas nouveau. Mais par contre, le deuxième pays qui s'est opposé, c'est la France. Donc le POTU le Mont POTU a décidé de déclarer l'indépendance, l'autonomie par rapport à la France, parce qu'on n'assume plus du tout les décisions françaises là d'un coup. Et voilà, la France qui a cette attitude depuis quelques mois de se mettre du côté des Américains, notamment dans ce conflit israélo-palestinien, alors qu'historiquement, la politique française au Moyen-Orient était plutôt une politique pro-arabe, on va dire. Et là, il y a un glissement, et c'est un petit peu dommage, notamment pour les Palestiniens, qui sont quand même pas soutenus par beaucoup de par la planète, par beaucoup de gouvernements, je veux dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'individus qui soutiennent la cause palestinienne. Mais donc voilà, c'est un peu une mauvaise nouvelle.
Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les pays arabes voulaient une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, les résolutions, c'est genre les lois mondiales qui dictent un peu aux pays ce qu'ils doivent faire. Il faut savoir qu'Israël n'a jamais respecté une seule des résolutions de l'ONU, à commencer par la première qui était, il me semble, la résolution 181.
C'est celle de 1948.
Voilà, c'est là.
C'est celle qui crée Israël.
Celle
en fait.
Qui crée Israël. Et dès la création, en fait, enfin, ça n'a pas été respecté puisque les frontières délimitées par cette résolution ont directement été outrepassées par l'État d'Israël.
Ouais, dans la création d'Israël en 1948, il y avait l'idée qu'il y ait deux États donc, séparés, la Palestine et. Alors, on ne donnait pas de nom à l'époque, c'était un État arabe et un État juif. Il n'y avait aucun nom donné dans la résolution de l'ONU. Et dans l'État juif tel que c'était partagé, il y avait quasiment 50-50, c'est-à-dire 50% d'Arabes et 50% de Juifs. Et donc, qui allaient devenir des Israéliens. Hein, parce que, alors, dans les résolutions, on les appelle juifs, ce n'est pas de l'antisémitisme du tout, hein, c'est les résolutions de l'ONU de l'époque. Et tout de suite a été déclenchée, donc en 1948, la première guerre israélo-palestinienne, guerre qui a consisté à virer l'essentiel de la population arabe de la zone dite juive dans les textes internationaux. Et je ne sais plus, ils appellent ça la grande catastrophe, je crois. Les Palestiniens, ils commémorent ce triste jour de déclaration de cette première guerre israélo-palestinienne.
Mais dans le premier partage de l'ONU, c'était l'État donc juif qui était partagé en deux et coupé en deux par l'État arabe. Alors
c'était
c'est
une sorte d'État binational. C'était un peu bizarre, cette résolution. Ça crée aussi un truc que tout le monde a réclamé par la suite et qui n'a plus jamais été appliqué, entre autres par les Israéliens, c'est que Jérusalem devienne une sorte de ville internationale, c'est-à-dire sous statut particulier, que ça soit à la fois la capitale de la Palestine et d'Israël. C'était spécifié comme ça dans la résolution. Il y avait une autre ville, d'ailleurs, qui avait ce statut-là. C'était Bethléem, qui devait avoir aussi un statut de ville, une sorte de ville internationale, ça n'a jamais été appliqué non plus. Voilà, il y a le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a quand même, lui, adopté une résolution. Alors, le Conseil des droits de l'homme, c'est pareil, c'est des résolutions qui ont encore moins d'impact que les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais bon, voilà, ça fait bien, en tant qu'occidental défendant les droits de l'homme, d'avoir ce Conseil des droits de l'homme. Donc, ils ont adopté par 29 voix pour, contre 11 voix et 5 abstentions. Une résolution qui qualifie de violation des lois humanitaires les opérations militaires israéliennes. Donc là, par contre, le texte reprend un amendement qui avait été rédigé par la conférence islamique qui exhortait toutes les parties concernées à respecter la loi humanitaire internationale, à s'abstenir de toute violence envers les populations civiles, donc ça concernait les deux parties, et à traiter en toutes circonstances les combattants détenus en Israël en accord avec la Convention de Genève, ce que fait naturellement pas l'État hébreu.
Retour en France ?
Yes. Avec une petite news, est-ce que tu sais, Olivier, combien on va être en 2050 ?
On va être 70 millions.
Attends, mais t'as lu mes infos, là ?
Non, c'est moi qui te l'ai donné.
Oh, mince. Et donc, oui, alors il faut savoir qu'actuellement, on est entre 60 et 61 millions d'habitants en France. Et donc, effectivement, pour 2050, on annonce 70 millions, c'est-à-dire qu'on sera 10 millions de plus. Ce qui va basculer, alors on continue d'augmenter. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'un État occidental comme la France continue de se développer au niveau population, ce qui n'est pas rassurant, puisqu'on sait que quand même les ressources de la planète, que ce soit en énergie ou en alimentaire, sont un petit peu limité, donc on continue d'être dans des phases d'expansion de population, on n'arrive toujours pas à stabiliser les choses. Souvent on parle des pays dits pauvres ou du tiers-monde qui font beaucoup d'enfants, qui se développent et qui sont de plus en plus nombreux, mais le problème existe aussi dans certains pays, comme notamment la France. Alors on est un peu un cas particulier au niveau de l'Europe, mais bon voilà. Notre population augmente. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2049, la population vieillit. Hein, là, on a le baby boom qui arrive à la retraite. Ce qui fait d'ailleurs, on vous rappelle, c'est la baisse mécanique du chômage. Elle ne vient pas des mesures gouvernementales, mais elle vient du baby boom. En 2049, il y aura dans les prévisions plus de morts que de naissances. Alors que jusqu'à maintenant, c'est l'inverse, puisque la population augmente. Donc à partir de 2049, ça change tout ça. Et l'INSEE a calculé qu'en 2050, les plus de 60 ans représenteraient 31,9% de la population. Et les moins de 20 ans, 21,9% de la population. Ce qui fait que les actifs, c'est le reste à peu près. Donc 46 ou 47%, les actifs, les potentiellement actifs. Parce qu'après, ils ne parlent pas du chômage. Mais voilà à peu près ce qui va se passer dans les années qui viennent. Donc on est toujours dans une phase de croissance, on va dire. On n'arrive toujours pas à stabiliser, voire à réduire. Ce serait peut-être un peu un objectif. Non.
D'accord. Peut-être le tien.
Ouais, je sais pas.
Bon, bonne nouvelle, on est en finale quand même.
Comment ça ? Attends, t'es Thierry Henry, c'est ça, c'est ton nom. Mm-hmm. Ah ouais, c'est pour ça que tu joues au foot. Et donc, alors, on n'est pas en finale, je précise, mais par contre, les joueurs qui sont dans l'équipe de France sont en finale. Et j'ai une news à vous annoncer, c'est que le foot tue. Alors oui, le dopage, machin, non, mais c'est pas de ça que je veux parler. Les sportifs ont une espérance de vie, certes, plus faible que le Pékin moyen. Mais ce n'est pas de ça non plus dont on va parler, c'est des morts dues directement à la fête de je ne sais plus quel jour où il y a eu la demi-finale. Nous, on était ici, on n'a pas vécu ça. Mais il y a eu 4 morts, donc à Paris, Lyon, Montpellier et puis je crois dans le Nord-Pas-de-Calais, à Loison-sous-Lens. Donc voilà, la victoire de l'équipe de France, c'est 4 morts. C'est pas mal quand même. Il y a plus de morts que de buts.
Le foutu. Une petite pause musicale et on revient derrière avec des informations économiques.
Il s'embrasse au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février, à se souvenir de Charonne. Les matraqueurs assermentés, qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue en assent. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient qu'il y a la guillotine, chez nous aussi fonctionne encore. Et dès ce signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi les cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand.
On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que le printemps, c'était pour bientôt. Les vieux principes du 16e siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié, ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour leur la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie. Ils pensent aux braves soldats ricains qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils s'étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être des soucis de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet, en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Et s'abreuvent de balles populaires, feu d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. En mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouvert, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène de Santiago jusqu'à Paris. Ethnie sous signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinecure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre, un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffée, les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindos marrons. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit abondant. Et si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions. Le prétendant, être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit abondant. Le roi des cons perdrait son trône, il y aurait 50 millions. De prétendants.
Les Têtes Raides qui reprennent Renault Hexagone. Alors, cette chanson date des années 70 et il disait dans la chanson il y aurait 50 millions de prétendants. Aujourd'hui, on est 60 millions. Et quand Laurent Combes chantera cette chanson en 2000, c'est en combien que tu disais tout à l'heure?
En 2050.
En 2050, tu pourras dire il y aura 70 millions de prétendants. C'est toujours sur Radio Potus en 107.5. C'est les Potu Info, un autre regard sur l'actualité. On a beaucoup entendu dans les médias, dans la presse, pendant le mouvement social du printemps, que ces étudiants, ces lycéens qui faisaient grève allaient être pénalisés par ce qu'on a considéré comme du séchage de cours, alors que la grève peut être... peut apprendre beaucoup de choses, même parfois plus de choses que certains cours. Et pourtant, on a battu cette année le record de réussite au bac au premier tour, enfin avant les rattrapages, avec 73,9% de réussite. Comme quoi, on peut faire un grand mouvement social et avoir le bac.
on embraye sur la page économie, économie-libéralisme, hein, puisque c'est un peu malheureusement la même chose dans notre société, avec le débat qui rebondit tous les 15 jours à peu près, c'est une espèce de ballon de basket de l'économie, c'est l'ouverture des magasins le dimanche. Alors, on sait qu'il y a un projet de loi qui a été déposé par le député UMP Pierre Lellouche, donc proposition de loi sur l'ouverture le dimanche. Alors, je pense que ce projet de loi sera débattu s'il est accepté à la rentrée, c'est à voir, puisque la session d'été va parler d'autres choses au niveau des parlementaires. Mais il y a eu une réaction aujourd'hui d'une alliance quelquefois improbable, mais là qui fonctionne finalement, de syndicats et de petits patrons. Qui s'allient ensemble, donc qui se mettent ensemble pour s'opposer à l'ouverture des magasins le dimanche. Alors pourquoi on peut avoir cette alliance petit patron syndicat ? Alors on comprend très bien que les syndicats, au nom de la défense des travailleurs, se battent contre l'ouverture du dimanche des magasins, parce que on sait que c'est une brèche importante cette ouverture le dimanche. C'est un peu la disparition du dimanche non travaillé. Si ça, on commence à faire ça pour les magasins, et ben on va généraliser les choses. Alors il y a déjà des entreprises qui tournent le dimanche. Il y a bien sûr ce dont on a besoin qui fonctionne le dimanche, comme les hôpitaux ou les choses comme ça. Mais il y a aussi finalement toute une branche de l'économie qui pourrait s'arrêter, qui ne s'arrête déjà pas. Et si jamais on généralisait cette ouverture au commerce, et ben ça serait vraisemblablement une fin annoncée du dimanche comme journée de repos.
Et on ne pourra plus aller à la messe.
Et tu ne pourras plus aller à la messe, s'il te plaît. Ne me mets pas dans le même panique que toi. Donc, parce que moi, la mosquée, c'est le vendredi, hein, donc j'ai pas de souci. Pourquoi les petits patrons s'allient au syndicat ? Parce que les petits patrons sont aussi très concernés par cette ouverture le dimanche, qui en fait concerne essentiellement les grandes surfaces. D'abord, le petit commerce, s'il n'a pas d'employé, a le droit d'ouvrir le dimanche, hein, parce que quand on est son propre patron, on fait un peu ce qu'on veut. On connaît tous les boulangeries ouvertes le matin. Bon, alors, il y a des dérogations aussi pour les boulangeries le dimanche matin. Mais bon, voilà, ça veut dire que des grosses surfaces vont pouvoir ouvrir. Ça veut dire que plus de gens vont aller dans ces grandes surfaces. Alors, les études montrent que quand on ouvre le dimanche, ça augmente pas la quantité d'achats réalisés par une famille en moyenne sur un mois. D'abord, pour une raison simple, c'est que les gens dépensent à peu près tout l'argent qu'ils ont ou ils mettent un petit peu de côté, mais ils n'ont pas forcément de l'argent à dépenser en plus, parce que ça sera ouvert le dimanche, ils ne vont pas faire des achats supplémentaires. Ils vont faire d'autres, enfin des achats qu'ils auraient dû faire dans la semaine, ils vont les faire le dimanche. Et ils vont les faire plutôt dans ces grandes surfaces qui seront ouvertes. Et c'est donc au détriment du petit commerce. Et c'est pour ça que ces petits patrons s'opposent à cette ouverture le dimanche, parce que c'est une attaque de plus sur le commerce dit de proximité. Les grandes surfaces ont déjà fait beaucoup de mal aux petits commerçants, et donc ce serait en gros une étape de plus dans cette guerre grande et petite surface de vente. Donc voilà pourquoi ça revient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette alliance a demandé un sondage à l'Institut BVA, et ils ont orienté le sondage un peu différemment par rapport au dernier sondage, qu'en général, les questions sont posées de la façon suivante. On demande aux sondés, est-ce que vous êtes d'accord pour que les magasins ouvrent le dimanche ? Alors, il y a une partie des sondés qui réagissent sans trop réfléchir et qui répondent oui, on est d'accord pour que ça ouvre. Et donc, fatalement, on a des sondages qui valorisent un petit peu cette idée d'ouverture le dimanche. Par contre, quand on pose la question différemment, qu'on commence par poser comme première question, est-ce que vous êtes d'accord pour travailler le dimanche ? Et là, d'un seul coup, c'est 75% des gens qui ne veulent pas, des sondés qui ne veulent pas travailler le dimanche. Et derrière, quand on pose la même question que dans les autres sondages, est-ce que vous êtes pour ou contre l'ouverture ? Eh bien, il y a 88% des Français qui sont alors contre l'ouverture, alors que les derniers sondages donnaient des résultats inverses. Donc ça montre un peu la manipulation qu'on peut faire avec un sondage. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la technique anglaise de pas dans mon jardin. C'est qu'avant de poser une question générale, on se dit est-ce que vous seriez prêt à le faire ? Ou que ça se fasse chez vous, ou que ça vous concerne. Et là, d'un seul coup, les chiffres changent. Donc, c'est bien qu'on popularise un petit peu ce sondage. On n'est pas très fan des sondages, mais voilà, ça remontre un peu que finalement, il y a encore une forte opposition. Parce que ça casse un petit peu aussi les familles, ça casse ça casse beaucoup de choses que chacun travaille des jours différents et que le repos obligatoire pour quasi tout le monde, bah, ça fait un jour où on ne fait rien, où on fait autre chose, on ne consomme pas. Puisque le samedi étant, moi je croise régulièrement mon collègue journaliste shop dans les grands magasins à Carrefour là, le samedi. Donc voilà, le samedi on consomme et le dimanche on a une vie un peu sociale, un peu familiale.
Ouais, puis ça permet d'entretenir des relations familiales. Ça me rappelle l'histoire de la Pentecôte où on a voulu nous faire croire qu'en travaillant la Pentecôte, on allait éviter une deuxième canicule où plein d'anciens allaient malheureusement partir un petit peu abandonnés de leur famille. Alors que si justement aujourd'hui beaucoup d'anciens se retrouvent seuls, isolés, c'est parce que la population n'est pas incitée à entretenir ce lien familial, mais plutôt elle est incitée à travailler un maximum de temps et donc ne plus s'occuper de sa famille.
On reste dans la page économie avec une petite news intéressante, puisque pour quasiment pour la première fois, ou en tout cas c'est la fois la plus importante, des logiciels libres arrivent à imposer des choses un petit peu aux grosses sociétés de l'informatique. Alors le logiciel libre, on vous rappelle, c'est des gens qui, des étudiants, c'est des informaticiens qui développent des logiciels sans droit d'auteur, qui les mettent à disposition, qui mettent à disposition les codes des logiciels, ce qui permet à une communauté d'informaticiens qui serait un peu partout dans le monde d'améliorer en permanence le logiciel, et tout ça gratuitement, ce qui fait qu'on a des logiciels qui sont souvent plus performants, en tout cas plus réactifs, plus souvent remis à jour que les versions des grosses entreprises. Et donc voilà, alors on a des exemples, là, par exemple au niveau Internet, actuellement le logiciel qu'on utilise, qui se développe beaucoup et que de plus en plus de gens utilisent pour naviguer sur Internet, c'est Mozilla. Qui prend la place de l'apocalyptique Internet Explorer. Alors l'intérêt de Mozilla, par exemple, en plus d'être gratuit, de fonctionner sur le refus du capitalisme, c'est aussi un logiciel qui est beaucoup moins piraté, cassé par les pirates que Internet Explorer, notamment tous ceux qui envoient des fenêtres qui s'ouvrent un peu du spam, des choses comme ça. Mozilla bloque beaucoup plus les spams ou les choses un peu négatives de l'Internet que le logiciel de Microsoft. Voilà, et puis bon, il y a plein d'autres qualités à ce logiciel. Alors ça, c'est un exemple sur Internet. Il s'est développé des concurrents à peu près tous les logiciels commerciaux qui existent, en tout cas tous les logiciels grand public. Et on a un exemple avec le traitement de texte, en gros la suite Microsoft Office, qui est un concurrent libre, ce qu'on appelle ça des logiciels libres, c'est OpenOffice. OpenOffice a donc créé un standard d'enregistrement de fichiers, un standard libre. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien Microsoft a décidé que son Word, son Excel, enfin toute sa suite logicielle serait maintenant compatible avec le format du logiciel libre. Alors c'est suite aux pressions de l'État français, donc c'est quand même à remarquer, notamment du ministère de l'Économie et des Finances, qui va lancer un appel d'offres pour rééquiper ses postes en logiciel et qui a demandé au nom de ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire que ce qu'on enregistre avec un logiciel doit pouvoir être lu par d'autres logiciels, enfin par tous les logiciels. Ils ont dit que d'office, Microsoft ne répondait pas à l'appel d'offres, donc Microsoft ne pourrait pas placer ses logiciels. Donc pour ça, parce qu'il y a quand même un enjeu financier très important, Microsoft a décidé de modifier ce logiciel. On espère quand même que le ministère de l'Économie et des Finances choisira plutôt du logiciel libre. Il faut savoir que déjà certaines administrations sont passées en logiciel libre, qu'il y a des parties, notamment les serveurs dans les entreprises sont déjà sur des logiciels libres. Voilà, ça se développe de plus en plus et donc Microsoft est un peu obligé de s'adapter à ce monde-là. Voilà, rendons de la liberté au logiciel.
Absolument d'accord.
Ok. Alors, nous, ici à Radio Potu, la radio du festival de la Pierre Bleue, dite de Bluestone Festival, hein, entre nous. On est un média dit libre aussi, parce que on ne subit assez peu de pression, si ce n'est du chef d'antenne, là, qu'on appelle le colonel, ça vous permet d'imaginer un peu l'ambiance. Et donc, à part ce colonel, on est totalement libre, notamment dans la rédaction de nos informations, hein, on n'a pas de pression. Ce n'est pas le cas partout. Alors, si on regarde un petit peu qui dirige aujourd'hui le monde est dirigé par, avant tout par l'économie et puis leurs amis politiques. Et les médias on peut dire à peu près que 99% des médias, que ce soit presse écrite ou radio, télévision, sont déjà sous l'emprise du monde économique. Et ben, pour les gens qui sont tenants de la doctrine libérale de la croissance et tous ces trucs-là, ça ne suffit pas. Parce qu'il leur reste encore à convaincre l'ensemble de la population qui résiste. Alors, il y a Thierry Breton qui nous explique que son problème est, et je le cite, il dit « L'acceptation des règles d'une économie moderne fait encore débat ». Alors, pour lui, ça pose problème qu'on discute de l'acceptation des règles d'une économie moderne. Alors, pour lui, une économie moderne, c'est le libéralisme, ça ne peut pas être autre chose. Et alors, Thierry Breton a eu l'idée d'un truc, de créer ce qu'on appelle le CODIS, ça veut dire le Conseil pour la diffusion de la culture économique, donc qui sera présidé par un patron de presse déjà vendu au monde libéral, Claude Perdriel, et ça sera mis en place début septembre. Et l'objectif, c'est de développer l'économie sous forme pédagogique, mais bien sûr que l'économie libérale, pour pouvoir influencer encore plus la population. Donc voilà, c'est un nouvel organe de manipulation et de propagande créé par Thierry Breton, qui est toujours et toujours le ministre des Finances ou de l'économie, les deux, donc de l'État français.
C'est ça.
Ensuite, toujours dans le libéralisme, on a une info qui a été donnée par un syndicat de l'entreprise La Poste, ex-entreprise publique, mais qui tente à devenir très bientôt une entreprise privée. Ils ont calculé que les salaires des 10 plus hauts, les 10 plus hauts salaires de La Poste, c'est-à-dire en gros les gros dirigeants, avaient eu une augmentation de salaire de 16,5% en 2005. Et que depuis 2001, ces 10 plus hauts postes à La Poste ont gagné 79%. En gros, depuis qu'on est entré dans une phase de privatisation de La Poste. Donc 79% d'augmentation de salaire pour ces 10 plus hauts cadres, c'est quand même pas mal. Le syndicat dit, on a regardé pour les salariés. Alors, d'après toi, Olivier, les salariés, à combien ont-ils eu droit, on va dire, sur ce qui est prévu sur l'année 2006?
Moi, je dirais entre 15 et 17%.
Eh ben non, ça, c'est les boss, mon gars. Les salariés, ils n'ont pas droit à ça. Les salariés ont droit pour les cadres à 1% d'augmentation et les employés à 1,2%. Si vous regardez sur 6 ans, ça fait en gros 6% d'augmentation. Comparé aux 79% d'augmentation des 10 plus hauts cadres de La Poste, l'écart entre les riches et les pauvres se creuse et ça se voit forcément, notamment dans les phases de privatisation du service public, comme c'est le cas à La Poste.
Alors, peut-être une solution pour les parents qui n'arrivent pas à trouver de crèche pour leurs enfants.
Eh oui, les mettre au travail.
Voilà.
Alors demain, on reviendra un peu sur le travail en France et tout. Mais on a un rapport des Nations Unies qui ont calculé un peu ce que représentait le travail forcé. Alors le travail forcé, c'est les formes modernes d'esclavage. Donc quand on fait travailler les enfants dans les pays du tiers-monde, votre petite basket Nike, en général, elle a été touchée à un moment ou à un autre par des mains d'enfants. Je dis Nike parce qu'il y a eu des reportages sur Nike. Mais en gros, quasiment l'intégralité des grosses société industrielle qui fait fabriquer à l'autre bout du monde, notamment en Inde ou en Chine, font travailler directement ou indirectement des enfants. Et le chiffre nous est donné, il y aurait 12 millions d'enfants et d'adultes qui seraient dans qu'on pourrait considérer comme du travail forcé, c'est-à-dire une forme moderne d'esclavage. Il faut rappeler aussi que, par exemple, dans les formes modernes d'esclavage, il y a les prisonniers, notamment en Chine, puisque les prisonniers chinois travaillent gratuitement. Donc c'est aussi du travail forcé.
En France aussi, au bout d'un moment, ils travaillent gratuitement. Alors, parce que leur pécule, ce qui touche à la sortie de prison une fois libéré, quand ils travaillent, ils touchent une certaine somme d'argent qu'ils récupèrent à la sortie de la prison, sauf que cette somme est plafonnée. Donc au bout d'un moment, ils travaillent gratuit.
Puis des fois, ils ne sont pas payés non plus, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de droit du travail en prison. Donc voilà, ça fait quand même 12 millions de personnes et ils ont calculé combien ça rapportait aux entreprises, et ça permet de gagner 23 milliards d'euros aux entreprises.
C'est pas mal.
Donc, si vous avez des enfants que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez les donner à un pays du tiers-monde, ils les feront travailler gratuitement.
Et une petite pause avec une petite musique.
J'ai voulu que pour une fois, les Français puissent comprendre. Vous voulez donner vos enfants et vos petits-enfants ? Vous donnez aucun impôt. On va à la mairie de sa ville. On prend un petit enfant. On met le nom du donateur et le nom du donataire. C'est tout. On joint ça à sa formule d'impôt.
Ouais.
Et ainsi, on rend service aux petits-enfants. Et on soutient l'emploi. Moi, j'ai un travail à faire et je le ferai. D'ici à la fin de l'année, nous aurons examiné tous les petits-enfants. Tous les petits-enfants. Ceux qui sont inefficaces seront supprimés et recyclés dans une baisse des pots pour tout le monde. Tenez-vous bien, il y a 9 millions de petits-enfants. Le Parlement nous a autorisés à recycler tous les petits-enfants. Comme il y aura des dépenses imprévues, il faut que je fasse des réserves de petits-enfants. Vous savez, je vais expliquer aux Français les choses très simplement. J'ai trouvé des petits-enfants très lourds. Il faut les réduire parce qu'ils minent et ils sapent la confiance. Donc il faut à la fois mettre de côté des petits-enfants et en même temps donner un peu d'oxygène parce que la croissance est là. Tout le monde le dit. Donc on va doper des petits-enfants.
C'était Polémique, c'est la voix off sur Radio Potu, des radiologues comme on appelle ça ici, de Radio Béton, une radio libre de Tours, avec ce petit remix d'une personne dont on a choisi de ne pas citer le nom encore aujourd'hui pour mieux se rattraper demain.
Tu veux dire le petit Nicolas ? Oui, puisque on a décidé de faire un gros dossier par Potu Info. Donc hier, on a fait un dossier Israël-Palestine. Aujourd'hui, on va faire un dossier environnement-énergie. Et puis demain, on fera plutôt un dossier sur le contrôle social, sur les lois sécuritaires, sur tout ce qui... toutes les régressions que mettent en place la gauche et la droite depuis un peu moins d'une dizaine d'années, on va dire depuis 6 ans. Donc ça, c'est pour demain. Donc aujourd'hui, on commence par une petite rubrique écolo et après, on parle du problème de l'énergie puisque c'est quand même un des gros problèmes qui vont concerner tous les pays, toute la planète d'ici une vingtaine d'années. Alors les infos écolo, les conséquences écologiques de nos comportements se font voir, notamment sur le thon rouge dans la Méditerranée. Alors pourquoi ce sont nos conséquences ? Parce qu'il y a une mode qui se développe beaucoup dans les pays occidentaux et notamment en France, c'est la mode des restaurants japonais de sushi. Donc vous savez, les sushis, c'est ce poisson cru qu'on met avec du riz. Et une partie des sushis sont faits avec du saumon, donc c'est du saumon d'élevage. Donc il y a des problèmes écologiques liés à la pollution des saumons d'élevage, mais ce n'est pas le thème de cette info. Le thème de cette info, c'est qu'une bonne partie des sushis sont faits avec du thon rouge qui vient de Méditerranée. Et les stocks de thon rouge fondent à vue d'œil. Et le WWF, qui veut dire en français le Fonds mondial pour la nature, a annoncé que la surpêche illégale de thon rouge en Méditerranée menaçait l'espèce d'extinction. Et ils ont des chiffres à l'appui. En 2005, il y avait 32 tonnes de pêche autorisée pour le thon rouge. Et ce qui s'est retrouvé sur le marché, c'est 45 547 tonnes. Donc il y a 13 547 tonnes qui ont été pêchées illégalement et qui font que les fonds de thon s'appauvrissent en Méditerranée. Donc voilà, une info pour se rappeler qu'il ne faut pas aller dans les restos de sushi toutes les semaines, hein, parce que ça a des conséquences importantes sur l'environnement et sur la disparition de certaines espèces. Ensuite, une petite info radioactive, parce que j'ai un collègue qui, lui, dans la nuit, là, qui est un petit peu radioactif, donc j'ai fait une info pour lui. C'est une annonce de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est une annonce totalement révolutionnaire, puisque pour la première fois depuis l'histoire du nucléaire en France, l'autorité de sûreté nucléaire qui est là pour gérer un petit peu, c'est un organisme d'État qui gère la sécurité sur toutes les installations nucléaires, qu'elles soient civiles ou militaires, nous annonce qu'effectivement un accident nucléaire majeur est possible en France et qu'il faut donc se préparer à cet accident nucléaire majeur. Alors il précise tout de suite que c'est possible, mais très peu probable. Ça, c'est pour allumer, pour rassurer le chaland. Mais c'est quand même un gros changement, puisque c'est la première fois qu'ils osent dire que c'est possible. Jusqu'à maintenant, l'attitude des autorités de sûreté nucléaire, c'est de dire, notamment, on se rappelle de Tchernobyl en 86, c'est de dire, ça peut arriver ailleurs, mais ça ne peut pas arriver chez nous, nos centrales sont trop bien. À force de dénoncer les incidents, il y a une centaine d'incidents en France chaque année, l'autorité de sûreté nucléaire a changé de discours pour essayer d'être un peu plus crédible. Donc, il reconnaît que voilà, un risque est possible. Et il nous propose des solutions. Et on va discuter un peu de ces solutions, parce que la première solution, qui est un peu toujours la solution de facilité, c'est de dire il faut distribuer des pastilles d'iode en cas d'incident nucléaire. Alors, si vous habitez près d'une centrale nucléaire, donc déjà, vous n'avez pas de chance, et parce que c'est quand même pas très beau, ça gâche un peu le paysage et les risques sont importants, vous avez reçu par les autorités des pastilles d'iode. Et il va falloir les prendre. Le problème, c'est que pour qu'une pastille d'iode soit efficace, il faut la prendre plusieurs heures avant d'être en contact avec la radioactivité. Or, s'il y a un incident, la radioactivité risque d'arriver assez rapidement. Donc les pastilles d'iode, finalement, ne sont pas très, très utiles. Alors, le problème des pastilles d'iode, finalement, c'est qu'elles ne concernent que l'iode radioactif et pas du tout les autres formes de radioactivité, les autres éléments radioactifs, et il y en a des milliers. Donc, finalement, c'est une sorte d'arbre qui cache la forêt de la radioactivité. C'est la solution qui est assez peu efficace et voilà, c'est juste pour rassurer. Ensuite, la deuxième solution proposée par l'autorité de sûreté nucléaire, c'est de dire qu'il faut informer plus et mieux. Alors, ça ne nous protégera pas, ça, c'est sûr, mais effectivement, c'est intéressant qu'ils le disent, parce qu'on rappelle qu'en 86, on a, je pense, battu le record du monde de la désinformation dans une démocratie, avec le nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait à nos frontières. Donc là, ils ont décidé que la prochaine fois qu'il y a un incident, ça ne sera pas la même chose. Bon. Et puis enfin, ils ont rappelé que face à ce risque quand même d'accident nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire faisait une quinzaine d'exercices par an pour être prêt. C'est une info inquiétante. Mais bon, si vous habitez loin d'une centrale nucléaire, vous avez moins de risques. En même temps, les nuages, ça voyage. On en a plein au-dessus de nous.
On n'a pas fini de manger des nucléaires au chocolat.
Ok. Ensuite... le nucléaire n'est pas bon à la santé, vous imaginez bien, et on a une nouvelle raison d'être inquiet du nucléaire, et c'est une conséquence totalement méconnue et assez peu médiatisée, c'est le problème des légionnelles. Alors vous savez, tous les ans en été, nous avons des infos comme quoi des personnes âgées, parce que ça touche avant tout les personnes âgées, meurent de légionellose. Alors au début, on accuse le monde agro-industriel, parce que souvent la contamination vient de là. Et puis l'année dernière, on a eu une petite épidémie de légionelle. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché la cause et on a trouvé que c'était dans les tours aéro-réfrigérées, notamment des climatisations. Ou des gros bâtiments de bureaux qui sont climatisés. Et là, il y a une enquête qui a été faite sur les tours aéro-réfrigérées des centrales nucléaires. Vous savez, ces grandes tours dans lesquelles s'échappe un nuage de vapeur d'eau. Les mesures montrent que dans ces tours, il y a 5 à 50 fois plus de légionnelles que la norme l'autorise. Donc, une des risques possibles du nucléaire, finalement, c'est la contamination des légionnelles par leur moyen de refroidissement. Donc, c'est quelque chose qui est assez méconnu et ça entraîne une énorme pollution puisque face à ces risques élevés de légionnelles, que font les entreprises qui gèrent des centrales nucléaires en France comme ailleurs? Elles traitent avec des produits chimiques pour essayer de tuer ces légionnelles. Et donc, ils injectent énormément de produits chimiques qui se retrouvent dans les eaux de condensation ou dans la vapeur d'eau et qui contaminent l'environnement. Donc, on a une contamination chimique à cause de l'industrie nucléaire. Voilà, une pollution chimique assez peu connue. Et puis, toujours pour rester sur le nucléaire, parce que des infos, on en a, le nucléaire ne fonctionne pas toujours bien. Et alors, en France, on a quelques news de temps en temps sur les incidents. Et on a des news aussi sur l'Angleterre aujourd'hui, puisque il y a l'autorité de sûreté nucléaire britannique qui a découvert des fissures sur certains réacteurs anglais. Pour l'instant, ils disent que ça n'a pas de conséquences directes, mais ça augmenterait quand même le risque d'incident. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à cette déclaration, eh ben, il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'entreprise privée, parce qu'on est en Angleterre, qui gère les centrales nucléaires, qui doit s'appeler British Energy, Ben, n'a rien dit. Elle a fait comme si elle n'avait pas entendu l'info. Alors pourtant, il y a eu des réactions dans la presse. Greenpeace a demandé la fermeture de ces réacteurs qui seraient potentiellement plus dangereux. Rien n'y fait non plus. Tony Blair, lui, répond simplement que la solution, c'est de construire de nouvelles centrales nucléaires pour remplacer les anciennes. Et voilà où on en est. Donc pour l'instant, ces quelques réacteurs qui ont des fissures vont continuer de fonctionner, notamment tout l'été, en attendant une solution. Alors la solution, elle n'est pas facile à envisager, puisque si c'est des fissures au niveau des cuves, ça veut dire qu'il faut changer la cuve. En gros, il faut refaire une centrale nucléaire. Ça rappelle la fragilité quand même de cet élément particulier qui est la cuve dans laquelle se trouvent les réactions nucléaires. Donc voilà, nous, on a déjà eu des problèmes en France. Ils ont changé la cuve, c'est une sorte de cocotte minute. Et le dessus de la cocotte minute nucléaire a déjà été changé plusieurs fois en France parce que les aciers résistent pas toujours au bombardement des neutrons qu'il y a à l'intérieur d'un réacteur nucléaire.
On respire ?
Ah ben non, on respire pas tout de suite. Oh, moi, je respire plus là. Mmh. Ouais. Eh ben non, on respire plus parce que tu m'as lancé sur une info qui ne devait pas venir là, en fait. C'est pour ça que je suis un peu perturbé, mais on va la faire maintenant. On respire plus parce qu'effectivement, on est confronté à une augmentation de la pollution atmosphérique liée notamment au transport routier, que ce soit les voitures, les camions ou à moindre ampleur pour l'instant, les avions. Et on a l'Institut de veille sanitaire, donc un organisme public qui est un peu chargé de veiller à ce qu'on soit à peu près en bonne santé, a rendu public hier les conclusions de son analyse des conséquences sanitaires de la pollution à l'ozone dans 9 villes françaises l'été de la canicule, donc c'était en 2003. Donc on sait que l'été de la canicule, il y a eu à peu près 15 000 morts. Alors c'est des morts prématurées, hein, c'est des gens qui allaient mourir, forcément on meurt tous un jour, et puis qu'ils sont morts un peu plus tôt. Et dans leur analyse sur ces 9 villes, ça concerne que 9 villes, pas du tout la totalité du territoire français. Ils ont défini que 379 personnes étaient non pas mortes de la canicule elle-même, mais de la pollution atmosphérique qui, pour le coup, est faite à 75% par l'ozone. Donc voilà, alors l'Institut de veille sanitaire nous donne ça, il donne cette info en disant voilà, finalement sur les 15 000 personnes, il y en a 379 qui sont mortes de la pollution atmosphérique liée au transport routier. Et il ne propose pas de solution. Pourtant, les solutions, elles sont connues. Il suffit d'interdire le transport routier quand il y a des canicules, par exemple. On arrêterait toute production de gaz toxiques et notamment d'ozone. Et puis, ils oublient de rappeler que l'importance de la pollution liée au transport routier est toujours minorée en France. On nous parle souvent des morts que fait la route. Donc la route, dans les chiffres officiels que répète souvent Jacques Chirac, parce que c'est un peu son truc, la sécurité routière, il nous annonce à peu près qu'on est descendu cette année, notamment au-dessous des 5000 morts par accident. Il faut savoir que la pollution atmosphérique liée au transport routier, c'est à peu près 25 000 morts en France. Donc la pollution due à l'automobile tue 5 fois plus que les accidents de la route. Par contre, on se garde bien de l'attaquer. Tout de suite, pour montrer qu'on est quand même ouvert à d'autres choses, on fait une pub pour les 4x4.
Toi aussi, t'habites au centre-ville de Lyon et t'en as marre de rouler en smart. En plus, les jours de pluie à Lyon avec une voiture classique, on risque facilement de s'embourber dans la boue. Et depuis qu'ils ont cassé les ponts au-dessus du Rhône, on est obligé de traverser le fleuve directement dans l'eau. Sans parler des risques d'ensablement les jours de grand vent où des dunes de sable se forment sur la presqu'île. Moi, je dis, si tu veux pouvoir continuer d'écouter les grosses têtes tranquilles dans une voiture climatisée au milieu de la ville de Lyon, une seule solution.
Achète un 4x4, tu pourras monter sur les trottoirs, tu seras au-dessus des grosses voitures, tu vas faire craquer les minettes, et en plus, si un jour tu sors de Lyon, tu seras vraiment bien équipé. Le 4x4 en ville, c'est trop la classe, faut pas manquer ça.
Le 4x4 en ville, une idée défendue par la communauté texane de Lyon.
Et si t'as pas assez de sous, achète un quad.
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 Voilà la solution. Bon, c'est vrai qu'on rigole sur les 4x4. Peut-être que dans les monts du Lyonnais, l'utilisation du 4x4 est peut-être plus justifiée que sur la presqu'île de Lyon.
Je suis pas sûr. Mais ce qu'on peut dire, c'est quand même que le festival des Nuits de la Perbeuse, c'est un festival sans 4x4.
Voilà.
On va attaquer le dossier sur l'énergie et le...
Petit dossier, hein.
Ah, petit dossier,
il
parce
reste
que
10 minutes.
Bon, on va dépasser un peu, quoi. Donc, petit dossier, oui, on va aller assez vite. On notera qu'il y a une grosse contradiction entre le discours proclamé sur l'énergie et la réalité des actes. C'est devenu tellement important dans la vie politique, finalement, qu'on finit par plus s'en étonner. Alors, pourtant, il y a un domaine où cette contradiction est vraiment lourde de conséquences. C'est de conséquences pour l'avenir, notamment. C'est la divergence entre la politique énergétique suivie et l'évolution probable du changement climatique. Alors, par exemple, officiellement, en France, la France se fixe comme objectif de réduire de 80% ses émissions de gaz à effet de serre en 2050. Ça veut dire qu'en gros, d'ici là, il faut réduire chaque année de 3% ces gaz à effet de serre, l'émission des gaz à effet de serre. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit que pour l'instant, c'est l'inverse qu'on fait. Par exemple, la France s'apprête à mettre en service 10 000 mégawatts de production électrique à partir de combustibles fossiles à partir de 2012. De plus, alors ça c'est pour EDF, ses concurrents, parce qu'il a des concurrents maintenant EDF, Poweo, lui, va mettre en route 2800 MW, toujours de production d'énergie électrique à partir d'énergie fossile, de même que SNET, 2000 MW, Gaz de France, 1430 MW, et Suez, 840 MW. À ces capacités nouvelles s'ajouteront le nouveau réacteur nucléaire EPR et puis un peu d'éolien qui sert surtout de validation écologique à tout ça. Donc en gros, pourquoi la question à se poser, c'est pourquoi on a cette contradiction entre l'objectif qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'un seul coup autant d'implantations de production d'énergie électrique à partir de combustibles fossiles. Et ben ça vient d'un truc simple, c'est que ce que l'État veut, l'État n'est plus capable de l'imposer et ne veut pas, à la rigueur il pourrait peut-être le faire, mais il ne veut pas l'imposer, tout simplement parce que toutes les sources, tous les producteurs d'énergie électrique ont été privatisés ou sont des entreprises privées, sauf EDF qui est en cours de privatisation. Et finalement, le but d'une entreprise étant de se développer, tous ces nouveaux fournisseurs que sont Poweo, SNET, Suez, Gaz de France, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils cherchent aussi à se développer. Donc, ils sont en totale opposition avec les politiques de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, en gros, tant qu'on sera dans une phase de privatisation de la gestion de l'énergie, on sera forcément dans une phase de croissance, puisque une entreprise privée fonctionnant dans le système libéral capitaliste ne peut fonctionner que s'il y a de la croissance. Donc, c'est une énorme hypocrisie que d'annoncer qu'on veut réduire les émissions à effet de serre. Alors, vous allez voir que dans les différentes infos, on est toujours sur cette hypocrisie. Par exemple, on a un rapport de la Commission de régulation de l'énergie qui, donc cette commission a remis ce rapport au Parlement français et il nous explique que il y a un problème en France, il y a un problème de l'énergie. Et lui, il explique que le problème est plutôt sur la lenteur des privatisations. Bon, on se dit pourquoi pas. Sur la coexistence des prix du marché et des prix des tarifs réglementés. Alors ça, c'est une attaque à EDF. Le rapport, qui est un rapport quand même très idéologique, estime que certains prix de l'énergie sont trop bas en France, notamment EDF, et ça constitue un obstacle à l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché, de nouvelles entreprises. Et donc, il n'y a pas de concurrence possible parce que, entre autres, EDF est trop peu cher. Alors c'est un rapport de l'État français qui dit l'inverse des recommandations et des traités internationaux que l'État a signés. Donc il y a une incohérence totale au niveau de l'État, une grosse schizophrénie. On rappelle que d'ici le 1er juillet 2007, dans un peu moins d'un an, il y aura une ouverture totale des marchés de l'énergie. Ça veut dire qu'en gros, la consommation va augmenter, la pollution associée va augmenter, les prix vont augmenter. En gros, ça signifie que dans un système capitaliste et libéral, la compatibilité avec un respect de l'environnement et une notion un petit peu d'écologie est totalement incompatible. Ensuite, hop, schizophrénie, on continue. Et puis un rapport parlementaire de deux sénateurs qui sont UMP pourtant dit l'inverse. Il dit quoi ? Eh ben qu'il faut trouver un moyen de réduire la consommation d'énergie, notamment d'énergie fossile. Et eux, ils se sont fixés comme objectif d'arriver à avoir, par exemple, du chauffage qui soit produit à 50% en énergie renouvelable locale. Alors, ils donnent plein de démarches pour ça. Il faut de plus en plus construire des centrales qui marcheraient à la biomasse, donc au bois, aux déchets de l'industrie du bois, etc. De la géothermie, développer le solaire, développer la réutilisation des déchets. Et puis, voilà, ça, c'est leur objectif. Et puis, qu'est-ce que font Les entreprises privées, elles en foutent, elles font ce qui est le plus rentable, c'est-à-dire, en gros, pour l'instant, elles installent des centrales au gaz, quoi. Donc voilà, c'est une schizophrénie supplémentaire. Et puis, il y a aussi, toujours dans ce problème de l'énergie, finalement, les fausses solutions dites écolo. Alors, par exemple, il y a un nouvel institut qui a été monté il y a 2 jours, le lundi 3 juillet, 3 jours, c'est l'Institut National de l'Énergie Solaire, ça s'appelle l'INES. Donc, ça va servir à quoi ? Eh ben, l'objectif, c'est de développer le solaire et notamment l'énergie électrique produite par le solaire. Alors, cet institut va avoir de grosses subventions. Par exemple, la région Rhône-Alpes va donner 15 millions d'euros, l'État va donner 30 millions d'euros pour développer l'énergie solaire sous forme photovoltaïque. Alors photovoltaïque, maintenant vous savez ce que c'est, puisque ce matin vous avez eu une chronique dans la première émission de Radio Potu à 8h30, qui vous expliquait comment marchait le photovoltaïque. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le photovoltaïque est un élément qui demande beaucoup d'énergie à la fabrication. Donc en gros, une fois qu'on l'a fabriqué, il faut que ça reste sous le soleil pendant 2 ans pour que ça ait refourni autant d'énergie que ça en a absorbé dans la fabrication. Ensuite, ça a une durée de vie de 15-20 ans, donc assez courte. C'est fabriqué avec du silicium dopé à des produits, des métaux lourds qui sont difficilement retraitables ou qu'on retraite en tout cas assez peu. Donc, c'est des sources de pollution importantes. Et donc, voilà, la solution préconisée par cette INES, l'Institut National de l'Énergie Solaire, c'est ça, c'est de développer le solaire photovoltaïque. Pourtant, il existe des alternatives toujours au solaire, mais qui est le solaire thermique. Et pour ça, il faudrait que la réglementation change. Hein, installer du solaire thermique en ville, actuellement, ce n'est pas possible, puisque la loi n'autorise pas d'installer ces tuyaux noirs sur les toits français. C'est assez difficile à faire en ville. C'est possible dans certaines régions. On pourrait faire comme en Espagne, par exemple, obliger toutes les constructions neuves à avoir des chauffe-eau solaires. Et grâce à ça, on économise au moins 50% sur le chauffage et 50% sur l'eau chaude sanitaire et 35% sur le chauffage. Ensuite, on pourrait développer les panneaux solaires photovoltaïques cette fois, mais en ville. Et c'est pareil, il y a une opposition. Alors, c'est l'Institut d'État qui prône le solaire, mais qui ne va pas faire modifier les autres organismes d'État pour permettre qu'il se développe. Donc, pour l'instant, la loi empêche le développement, alors que des fonctionnaires, des instituts officiels prônent le développement. Donc voilà, on est toujours dans une schizophrénie qui a un sens, en fait. C'est que en façade, dans les médias, on dit qu'on veut développer le solaire, on veut développer tout ce qui est source alternative, et dans la pratique, c'est quasi impossible. Donc voilà, c'est pour ça que le développement des sources alternatives est assez rare. Par exemple, sur l'éolien, on sait que ça se développe beaucoup, mais c'est des formes industrielles d'éolien. On a en France 1500 moulins dits traditionnels, hein, qui datent du 18e ou du 19e, qu'on pourrait réutiliser et transformer en centrale électrique, mais on ne le fait pas. On préfère installer des grandes éoliennes, souvent pas très jolies, plutôt que de réutiliser ce patrimoine-là. Alors, le pas très joli, ça se discute, mais quand on est dans une belle vallée qui est à peu près protégée, qui n'a pas trop de lignes haute tension, qui n'a pas trop d'autoroute, c'est un petit peu dommage d'y installer des éoliennes. Donc voilà, on est toujours dans le discours. Et puis, pour terminer cette rubrique écolo, je voulais repréciser ceux qui cassent aussi l'application réelle de l'écologie, parce qu'ils sont dans le m'as-tu vu en permanence. Alors, on peut parler, par exemple, d'un des plus gros traits au développement, au respect de la nature, qui est Nicolas Hulot, qui a monté un site qui s'appelle Défi pour la Terre. Alors, Défi pour la Terre, il nous explique ce qu'il faut faire pour respecter l'environnement. Alors, par exemple, il nous dit qu'il faut manger des produits de saison. Ah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on fait sur le festival. Manger bio, on fait ça aussi. Pas d'OGM, on est d'accord. Manger moins de viande. Là, on n'est peut-être pas très fort ici.
Mais il a raison.
Mais il a raison pour le coup. Il faudrait manger de la viande 1 à 2 fois par semaine au maximum. Éviter les emballages superflus. Passer sur des transports non polluants. Supprimer la climatisation. Faire des économies d'énergie avec des lampes basse consommation, etc. Alors on se dit, putain, c'est pas mal. Et puis, dans la rubrique, il y a une rubrique particulière sur le site Défi pour la Terre, qui sont les partenaires qui aident Nicolas Hulot à faire tout ça. Et dans les partenaires, on a EDF, qui est quand même la première entreprise faisant la propagande du plus de consommation électrique. On a Leclerc, supermarché, qui est quand même une sorte de roi du suremballage, qui lutte pas forcément bien contre les OGM, qui est un peu le paradis de la voiture et donc du transport polluant et de
Et très loin des circuits courts.
Très loin des circuits courts. Dans les partenaires, on a TF1, qui est quand même la chaîne de la propagande pro-voiture et pro-mondialisation. Donc, on est mal parti. Et puis, il y a aussi L'Oréal, qui fabrique essentiellement des choses à partir de produits chimiques et donc non naturels. Donc, voilà, on a un exemple de schizophrénie. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est parce que, effectivement, par devant, on a plein de bonnes intentions. Et puis, dans l'application ou dans les gens qui mettent en pratique ça, c'est-à-dire, donc là, les partenaires de Nicolas Hulot, qui sont directement concernés, ils font l'inverse. Donc, ça explique pourquoi, finalement, ça n'avance pas. Ça avance dans la théorie, dans les médias, dans la prise de conscience, mais dans la pratique, ça n'avance pas. Et le Festival des Nuits de la Pierre Bleue, justement, fait avancer les choses en rentrant dans une phase pratique. On consomme des produits en circuit court, des produits produits dans les monts du Lyonnais, des produits de saison. Et donc, on casse un petit peu l'idéologie du système de consommation classique.
Merci, Écolorant. Écolorant.
Alors moi je suis. On a fait donc ce Potu Info avec Olivier, voilà, dit le comique de Radio Potu. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a des émissions drôles le matin notamment. Je vous incite à vous lever tôt, à écouter à 8h30 Radio Potu. Avant de passer. À l'enchaînement suivant, on peut peut-être rappeler les programmes de Radio Potu pour aujourd'hui, parce qu'il va se passer encore plein de choses sur Radio Potu.
Et ben dans un instant, il y aura un Imix Gration. À 16h30, on retrouvera. Un petit portrait sonore des Monts du Lyonnais, il me semble. Et puis l'équipe de Radio Potu est déjà en train de préparer l'apéro public qui aura lieu en direct de la place de l'église au village de Brulioles pour l'apéro radiophonique avec Écolorant.
Voilà, donc si vous voulez rencontrer les animateurs et le chef, le colonel, le fameux colonel de Radio Potu, c'est rendez-vous donc à 19h, place de l'église à Brulioles.
Voilà, dans un instant l'immigration, avant un petit peu de musique pour respirer.
Mangalu ta w to śnieł. Łysy resasin je wykryś mir konia eni na drygesin we wykryś.